Demain, 4 avril, est la Journée internationale de la sensibilisation au problème des mines et de l'assistance à la lutte anti-mines. Et j'en parle avec Jérôme Bobin, directeur général de Humanité et Inclusion Canada, car la lutte contre les mines antipersonnelles est à la base de l'histoire et de la mission de votre organisme. Bonjour, Jérôme.
Bonjour, Hélène.
Vous allez bien?
Oui, je vais bien, malgré les sujets qui nous entourent, mais tout va bien.
Bon, alors tant mieux. Et puis, ça vous donne aussi de l'énergie quand tout va bien pour aller de l'avant avec cette lutte, parce que c'est loin d'être terminé. Depuis quand les mines sont-elles utilisées? Pourquoi aussi ont-elles été si populaires?
Oui, alors vous avez raison. En effet, il en faut de l'énergie pour affronter ce fléau, hein, parce que c'est bien un fléau. Mm-hmm. En fait, les mines antipersonnelles, si on revient en arrière, c'est vraiment un héritage de comportement des deux guerres mondiales, en fait, qui ont eu lieu principalement en Europe. En fait, c'est à partir de ce moment-là que certains ingénieurs ont trouvé très intéressant de créer des petites boîtes très légères, très faciles à dissimuler, à disposer dans les sols, et puis qui pouvaient attendre après, pendant des années, des dizaines d'années, leurs victimes tranquillement. Il faut savoir qu'à l'origine, une mine antipersonnelle avait été créée pour protéger des terrains, des zones, pour empêcher l'accès sur ces terrains-là. Et puis très vite, dans les années 70, 80, 90, elles ont vraiment été utilisées pour mettre une pression, une menace sur les populations en face de vous, opposées.
Mmh. C'est parti d'une bonne intention, mais...
Oui, ça, si on peut dire, par une bonne intention, quand on crée une arme, on pourrait en discuter.
Oui, tout à fait.
Ça a été détourné dans un usage plus pour cibler des civils et en fait pour faire peser une menace aussi, une peur permanente, psychologique. Vous pouvez imaginer, par exemple, au Cambodge, au Laos, mais même au Moyen-Orient, quand les populations savent qu'il peut y avoir une mine n'importe où dans leurs champs, dans les terrains qu'elles ont l'habitude d'utiliser, ça fait peser sur eux toute une pression avant même de parler du handicap que ça crée quand on explose malheureusement sur une mine.
Mm-hmm. Là, vous avez parlé du Cambodge, de Laos, du Moyen-Orient. C'est particulièrement dans ces zones qu'on trouve les mines antipersonnelles?
Il y a une soixantaine de pays qui sont encore affectés aujourd'hui par les mines antipersonnelles.
60, c'est beaucoup.
Oui, il y en a sur le continent américain, la Colombie, largement très, très affectée à cause du conflit, la guerre civile avec les FARC notamment. Cuba a quelques mines aussi, principalement autour de la zone de Guantanamo, donc la frontière avec les États-Unis. Après, l'Afrique à différents endroits d'Afrique, le Moyen-Orient, beaucoup, et malheureusement beaucoup plus ces dernières années avec la guerre en Syrie, la guerre au Yémen, tout ce qui se passe à Gaza. Et puis l'Asie, historiquement, en effet, l'Asie est très largement contaminée. Cambodge, Laos, Vietnam, ça c'est un héritage de la guerre du Vietnam, hein, donc on parle des années 70, vous imaginez que ça fait 40 ans.
Mais c'est ça, je me demandais combien de temps une mine antipersonnelle demeurait active. Vous parlez de 40 ans ici?
Oui, ça n'a pas de date de fin, parce que c'est du matériel qui est très résistant, très simple aussi. Donc, une fois que c'est bien enfoui, ça peut rester des dizaines d'années. Il y a encore des gens aujourd'hui qui explosent sur des mines qui ont été posées dans les années 70.
Alors, est-ce qu'il s'agit de passer sur cette mine pour que cette mine explose?
Ça va dépendre. Il y en a beaucoup, c'est ça. En effet, vous posez votre pied dessus et là, ça explose automatiquement. Et puis d'autres sont encore plus sournoises parce que vous allez les trouver, vous allez les prendre, les manipuler, il va rien se passer. Une fois, deux fois, il va rien se passer. Et la troisième fois, ça sera la manipulation de trop et là, ça va exploser. Et c'est d'ailleurs pour ça que la majeure partie, une grande partie des victimes sont des enfants. Parce que quand ces enfants-là n'ont pas été bien éduqués au comportement adopté face à ce type d'engin, ils peuvent prendre ça comme un jeu, comme quelque chose qu'ils trouvent. Oh. Ils jouent avec une ou deux fois, trois fois. Et puis la quatrième, c'est la mauvaise.
Oui, ça peut les tuer, comme ça peut les rendre aussi handicapés.
Surtout handicapés, finalement. Ouais, l'impact d'une mine, c'est majoritairement de causer du handicap, des amputations.
Mm-hmm. Et il y a un traité, le traité d'interdiction des mines antipersonnelles existe. Il a été ratifié, est-ce que ça fait longtemps?
Alors, il a été ratifié en 97, le traité d'Ottawa.
Déjà 22 ans?
Pardon?
Déjà 22 ans?
Oui, déjà 22 ans. Donc, ça a été... Ça a été une grande mobilisation à la fois de la société civile et d'un certain nombre d'États. Et là, il faut reconnaître que dans ces États, le Canada était un État leader, un État champion de la lutte contre les mines. Et donc, ça fait 22 ans que ce traité existe. Il a eu des très belles réussites. Hein. On a plus de 160 pays qui sont membres de ce traité, donc qui ont accepté d'interdire la production, l'usage, le transfert de toutes ces mines antipersonnelles.
Mais ce ne sont pas tous les pays qui ont suivi parce qu'on en utilise encore.
Oui, alors en effet, il y a encore 32 pays qui restent sur le côté de ce traité. Et puis surtout, le problème des guerres actuelles, des conflits actuels là, de ces 10-5 dernières années, c'est qu'en fait, on a affaire à des groupes d'armées, des groupes non étatiques, des groupes armés qui vont soit réutiliser des vieux stocks, héritage de la guerre froide ou autres grands conflits, soit créer eux-mêmes leurs mines très facilement, très basiquement. C'est ce qu'on appelle des mines artisanales. Et ça, malheureusement, les dégâts humains sont les mêmes. Et par contre, le déminage, la détection de ces engins artisanaux est beaucoup plus difficile.
Et quelles sont les actions de Humanité Inclusion aujourd'hui dans la lutte contre les mines antipersonnelles? Qu'est-ce que vous allez faire demain, hein, dans le cadre de la Journée internationale de la sensibilisation, entre autres choses?
Alors, vous l'avez dit déjà en introduction, Humanité Inclusion est née auprès des victimes de mines il y a plus de 35 ans. Donc, depuis 35 ans, on accompagne les individus qui ont été victimes de ces mines-là en leur proposant un appareillage, hein, donc orthèse, prothèse, et bien un appui psychosocial aussi, et puis des efforts de réinsertion, d'inclusion au sein de la société pour les enfants aller à l'école et pour les adultes retrouver un emploi. Donc ça continue, c'est notre cœur de métier. Et puis on fait aussi du déminage humanitaire. On a 8 pays actuellement à travers la planète sur lesquels on fait du déminage. On a des démineurs sur le terrain. On fait beaucoup de plaidoyer, du plaidoyer international auprès des Nations Unies, auprès des grands groupes d'État pour qu'ils mettent en œuvre les traités et surtout qu'ils invitent tous les autres pays qui les ont pas rejoints à les rejoindre. Et puis demain, moi, c'est pour ça que je suis pas en studio aujourd'hui parce que je vais partir bientôt pour Toronto. En fait, demain, j'assisterai moi à une rencontre à Toronto avec un militaire, avec un diplomate et puis avec moi qui représente le monde humanitaire pour parler justement de la situation des mines antipersonnelles, des explosifs et expliquer qu'il y a eu du chemin de parcouru positif mais qu'il y a encore énormément de choses à faire devant nous.
Des mines qui font encore des ravages et qui créent aussi des impacts sur l'économie, sur l'agriculture. Ça peut aussi peser dans la balance pour convaincre les pays qui sont toujours insensibles au traité de poser des gestes?
Oui, tout à fait, parce qu'en effet, ça bloque l'accès à certains territoires pour cultiver, ça peut bloquer l'accès pour faire des routes, pour poser des pylônes électriques, pour poser des canalisations, pour envisager toute la gêne que représentent les mines antipersonnelles. Et il y a un autre problème aussi majeur en ce moment, c'est que ces armes, les mines et les explosifs, sont de plus en plus utilisées dans des cités, dans des villes. Et donc là, ça engendre aussi beaucoup d'autres problèmes, des destructions d'infrastructures, mais aussi des complexités pour, vous imaginez. Imaginez qu'à Montréal, on doive travailler après un bombardement et il y a encore plein de restes explosifs de guerre.
J'ai pas tellement envie de l'imaginer.
Oui, mais par contre, vous voyez très facilement que ça serait très problématique à Montréal. Donc ça l'est actuellement. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont confrontés à ça dans le reste du monde.
Alors, Jérôme Bobin, directeur général de Humanité et Inclusion au Canada, merci pour votre beau travail. Et puis, il ne faut pas lâcher?
Non, il ne faut pas lâcher et ça prend tout le monde, tous les efforts de tout le monde.
D'accord. On pensera à vous particulièrement demain, 4 avril, Journée internationale de la sensibilisation aux problèmes des mines et de l'assistance à la lutte anti-mines. Au plaisir de vous retrouver.
Merci, Hélène.